Iskander Beg. Le respectable Hadji Festali marchait lentement en gravissant cet escalier de rue qui conduit à la partie haute de la ville où était située la maison d'Iskander Beg. De temps en temps, il était forcé de passer par des rues tellement étroites que ses deux honorables compagnons, Hussein et Fertsali, qui, dans les rues où l'on pouvait passer trois de front, marchaient à ses côtés, étaient alors obligés de se retirer et de marcher à sa suite sur une seule ligne. Humiliation à laquelle il s'empressait de se soustraire quand la rue devenait praticable pour trois personnes de front. Parfois, l'un ou l'autre essayait de lier conversation avec le Hadji, mais celui-ci était tellement préoccupé qu'il ne l'entendait pas, ne répondait pas. Et il était même si distrait qu'il ne remarquait pas qu'en crachant à droite et à gauche, il crachait tantôt sur la barbe noire de Hussein, tantôt sur la barbe rouge de Fertsali. La distraction alla si loin que les deux compagnons commencèrent de se fâcher. « Voilà un singulier homme, » dit Hussein. « On lui parle et au lieu de répondre, il crache. »« Que la boue lui entre dans la gorge !» s'écria Fertsali en essuyant sa barbe. « Le proverbe dit vrai, Hussein. Si le maître est à la maison, il suffit de le nommer et on vous ouvre la porte. Mais s'il n'y est pas, vous n'obtiendrez rien, même en le brisant. » »« Inutile de parler davantage, Amir Hadji Festali. Son esprit est ailleurs, la maison est vide. » Fertsali a la barbe rose, comme on l'appelait à Derbent, parce que, au lieu d'employer les substances en usage chez les Tatars pour se teindre la barbe, substances dont la première commence à teindre la barbe en rose et la seconde achève de la teindre en noir, Fertsali, qui ne se servait que de la première et qui par conséquent conservait sa barbe de la couleur de l'aurore au moment même où elle apparaît à l'horizon, Fertsali se trompait. La maison n'était pas vide. Elle était au contraire si pleine de ses propres pensées, et ses pensées en s'y heurtant faisaient un tel bruit que, ne pouvant entendre même la voix de son propre esprit, Hadji Festali ne pouvait entendre la voix des autres. Voici ce que ses pensées lui criaient. « Prends garde, Festali. Chaque pas que tu fais du côté de la demeure d'Iskander te rapproche d'un danger. Rappelle-toi combien gravement tu l'as offensé. Prends garde, Hadji Festali, prends garde. » Que s'était-il donc passé entre Hadji Festali et Iskander Beg? Nous allons le dire. Iskander était né à Derbent lorsque la ville était en possession des Russes. Cette possession date de 1795. Mais son père avait été l'ami intime du dernier camp qui avait été chassé de ses états par l'armée de Catherine. En 1826, il était mort de chagrin de ce que les Persans qui l'attendaient à Derbent avaient été chassés de Kouba jusqu'où il s'était avancé. Mais en mourant, il avait recommandé à son fils, alors âgé de 15 ans, de ne jamais servir les Russes et de ne jamais faire amitié avec les habitants de Derbent qui avaient chassé les Persans. Il était mort. Mais ses croyances, ses habitudes, ses opinions, tout revivait en son fils. Et ses idées, ses pensées, ses désirs étaient tout l'opposé des désirs, des pensées et des idées des habitants de Derbent. Une poignée de riz, un verre d'eau, un peu de lumière, beaucoup d'air. Voilà tout ce dont avait besoin le jeune Iskander Beg. Au printemps, lorsque le monde entier se réveillait au souffle de l'amour et de la poésie, lui scellait son bon cheval du Karabakh, jetait sur son épaule son beau fusil de Hadji Mustaf, le plus célèbre armurier du Daghestan, prenait sur son pouce son hardi faucon doré et, par les montagnes et les vallées, chassait le faisan jusqu'à ce qu'il tombât de fatigue, si toutefois il peut y avoir fatigue à l'assouvissement d'une passion. Alors il se jetait à bas de son cheval qu'il laissait errer en liberté, se couchait à l'ombre d'un grand arbre au bord d'un ruisseau et dormait tranquille à son murmure. Si cette douce harmonie le faisait rêver, si ses rêves étaient des réalités, s'il était poète ou philosophe, rêveur ou raisonneur, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il vivait en se sentant vivre. Que voulez-vous de plus? Pendant l'hiver, lorsque la neige chassée par le vent battait ses fenêtres, il aimait à entendre les hurlements du vent s'engouffrant dans sa cheminée. Couché sur son tapis, il suivait le jeu de la braise de son foyer ou les ondulations de la fumée de sa pipe. Voyait-il dans la braise de son foyer la figure du diable? Voyait-il dans la fumée de sa pipe les ailes des anges? Il le disait, lui. Le fait est qu'il vivait dans un royaume sans nom, et dans ce royaume dont il était le maître, il remuait des boisseaux d'émeraudes, de perles et de diamants. Enlever les femmes près desquelles les houris verts, jaunes et bleus promises par Mahomet aux vrais croyants n'étaient que des calmouks ou des samoyèdes. Se jeter dans les dangers fantastiques, combattre des gnomes, des géants, des enchanteurs, s'endormir au milieu des fantômes de sa fantaisie et se réveiller le matin, confondant tellement l'idéal avec la matière qu'il ne savait s'il avait vécu ou simplement rêvé. Parfois aussi, il appelait son nouker, un lesguien, et le faisait chanter. Le lesguien lui chantait la liberté de ses frères dans leurs montagnes, leur courage dans le combat ou dans la chasse. Et alors le cœur asiatique d'Iskander se gonflait. Il prenait son poignard, en essuyait la pointe, sa chasse-car, en aiguisait le tranchant et murmurait « Ne me battrai-je donc jamais ?» Ce désir ne tarda point à se réaliser. Cassimoula va assiéger Derbent. C'était une belle occasion pour les braves d'essayer leur force. Iskander Beg n'en allait sa peau échapper. Il faisait des sorties avec les Tatars, monté sur son beau cheval du Karabakh qui ne connaissait ni rocher ni abîme. Aussi était-il toujours en avant le premier. Le rejoindre, oui, cela se pouvait encore, mais le dépasser, non. Il ne courait pas, il volait comme l'aigle, envoyant la mort de loin avec son fusil d'abord, puis jetant son fusil désarmé sur son épaule et se précipitant sur l'ennemi, le Kandjar levé avec des cris sauvages. Un jour, on venait de se battre du côté de Kouba, et après avoir délogé les Russes d'un champ de vigne, les Tatars, malgré leur succès, se mirent en désordre, selon la coutume asiatique, avec deux têtes coupées et ajustées à un drapeau pris à l'ennemi. Les troupes russes étaient déjà rentrées dans la ville. Mais un jeune officier russe et quelques Tatars, au nombre desquels se trouvait Iskander Beg, étaient restés près de la fontaine. Les boulets et les balles sifflaient autour d'eux. L'officier russe buvait à même l'eau limpide et claire. En relevant la tête, il vit devant lui Iskander Beg en simple bec-met de satin blanc. Ses manches relevées laissaient voir ses mains et ses bras rouges de sang jusqu'au coude. Il était appuyé sur son fusil, les lèvres retroussées de mépris, les yeux mouillés d'une larme, splendide de colère enfin. « Qu'as-tu donc, Iskander ?» lui demanda l'officier russe. « Il me semble que tu as bien fait ta part de besogne et que tu n'as pas de regrets à avoir. »« Cœur de lièvre » murmura-t-il. « Il marche doucement quand il s'agit d'aller en avant, mais à la retraite, ce sont des chèvres sauvages. » « Eh bien, mais, dit le jeune russe, il me semble que la journée est à nous. »« Sans doute elle est à nous, mais nous y avons laissé le pauvre Ismaël. »« Ismaël ?» demanda l'officier russe. « N'est-ce pas le bel enfant qui m'est venu prier de lui donner des cartouches au commencement du combat ?»« Oui, notre tout Derbent, c'était le seul que j'aimasse, un cœur d'ange. Il est perdu. » Et il essuya une larme unie qui tremblait à sa paupière et qui semblait ne pouvoir pas se décider à tomber. « Il est pris ?» demanda l'officier russe. « Il est mort, » répondit Iskander. Plus brave qu'un homme, il avait toute l'imprudence d'un enfant. Il voulait cueillir une grappe de raisin, et il a franchi l'espace qui le séparait des vignes, il a perdu la tête. Devant mes yeux, les lesbiens lui ont coupé le cou. Je ne pus le secourir, j'avais affaire à 10 hommes, j'en ai tué 3, c'est tout ce que j'ai pu faire. En ce moment où s'est retiré, ils insultent son corps, les misérables. « Voyons, » s'écria-t-il en se tournant vers 3 ou 4 Tatars qui l'écoutaient. « Lequel de vous a encore de l'amour, de la foi, du courage dans l'âme? Celui-là reviendra avec moi pour sauver le corps d'un camarade. » « Moi, dit l'officier russe, j'irai avec toi. Allons, » dirent aussi 2 Tatars. Et ils se rejetèrent tous les 4 au milieu des lesbiens qui, ne s'attendant pas à cette attaque subite et croyant que ces 4 hommes étaient suivis d'un plus grand nombre, se retirèrent devant eux, et ils parvinrent jusqu'au corps de l'enfant, le reprirent et le rapportèrent vers la ville. À la porte, la mère attendait. Elle se jeta sur ce cadavre décapité avec des cris, des pleurs, des sanglots à briser l'âme. Iskander la regardait, les sourcils froncés. Et ce n'était plus une seule larme qui tremblait isolée à sa paupière. C'était des pleurs pressés comme l'eau d'une source qui inondait son visage. Le désespoir d'une mère faisait fondre ce cœur de lion. « Quel malheur que tu ne sois pas russe !» lui dit l'officier en lui tendant la main. « Quel bonheur que tu ne sois pas tatar !» répondit Iskander en lui serrant la main. « Il y a une chose connue, c'est que les moustaches qui sont le signe de la puberté sont en même temps l'avant-garde de l'amour. » Iskander n'avait point échappé à la loi générale. Chaque poil de sa moustache était né sur sa lèvre, en même temps qu'un désir naissait dans son cœur. Désir encore vague, inexplicable à lui-même, mais pareil aux branches d'oranger qui portent sur le même rameau et la fleur et les fruits. Pourquoi les femmes aiment-elles tant les moustaches? C'est que, symbole de l'amour, elles sont nées aux mêmes sources que lui, et frisent à l'ardeur des désirs. Que demande le nez au vent le jeune homme à l'œil humide, au visage souriant, à la lèvre rose sous la moustache naissante? Ce n'est ni les honneurs ni la fortune, c'est tout simplement un baiser. Une moustache vierge, c'est un pont jeté entre 2 bouches amoureuses, une moustache. Laissons là les moustaches, elles nous conduiraient trop loin. Et puis pourquoi, avec des moustaches grises, parler des moustaches noires ou blondes? D'ailleurs, les moustaches, de quelque couleur qu'elles soient, m'éloignent de mon sujet, j'y reviens donc. Au mois d'avril précédent, Iskander était, selon son habitude, parti pour la chasse. La journée était belle, c'était une vraie fête du printemps. Il faisait chaud sans soleil, frais sans humidité. Iskander nageait au milieu d'un océan de verdure et de fleurs. Déjà, depuis plusieurs heures, il allait de caverne en caverne et de montagne en montagne. Il cherchait quelque chose qui lui manquait sans savoir ce qu'il cherchait. Pour la première fois, l'air lui semblait lourd à respirer. Pour la première fois, le cœur lui battait sans cause. Sa poitrine inquiète se soulevait comme le voile d'une femme. Et à propos de voile, notons un fait. Quand autrefois Iskander passait dans les rues de Derbent, il n'eût pas jeté les yeux sur celui d'une femme eût-elle été découverte jusqu'à la ceinture. Tandis qu'au contraire, du jour où il avait pu rouler entre ses doigts l'extrémité de sa petite moustache noire, chaque bout de nez, chaque lèvre rose, chaque œil brun ou bleu qu'il entrevoyait à travers l'ouverture d'un voile le glaçait et le brûlait tout à la fois. À coup sûr, il n'avait jamais étudié l'anatomie. Eh bien, malgré son ignorance, il pouvait se représenter une femme du bout de sa pantoufle au sommet de son voile, non seulement sans erreur, mais même sans omission. Et cela, rien qu'en voyant un petit pied chaussé de soie, se montrant dans une pantoufle de velours, au-dessous d'un pantalon de canaos, garni d'un galon d'or ou d'argent. Je ne vous dirai pas si cette fois la chasse fut heureuse. Ce que je vous dirai seulement, c'est que le chasseur était fort distrait. Si distrait qu'au lieu de chercher les endroits solitaires où se tiennent d'habitude les faisans et les perdrix, il dirigea son cheval vers deux ou trois houles où il n'y avait absolument rien à voir. Mais la journée était belle, et soit debout à leur porte, soit assis sur leur toit, il espérait entrevoir quelqu'un de ces jolis petits animaux contemporains qu'il reconstruisait avec autant de précision que le savant Cuvier reconstruisait un mastodonte, un ichthyosaure, un ptérodactyle ou tout autre monstre antédiluvien. Malheureusement, il eût fallu s'en rapporter aux spécimens déjà connus. Les femmes étaient à leur porte, les femmes étaient sur leur terrasse, mais les musulmanes qui écartent parfois leur voile pour les giaours ne les écartent jamais pour leurs compatriotes. Il en résulta que les désirs d'Iskander Beg, ne trouvant pas un visage où se fixer, se dispersèrent au vent. Le jeune homme s'attrista, poussa un profond soupir, jeta la bride sur le cou de son cheval et laissa celui-ci maître de le conduire où il voudrait. C'est ce que devraient toujours faire les voyageurs et les amoureux quand ils ont un cheval intelligent. Le cheval connaissait un chemin charmant qui ramenait à la maison. Sur ce chemin était une source formant bassin sous de hauts platanes où il avait l'habitude de se désaltérer. Il prit ce chemin. Iskander Beg ne fit pas même attention au chemin que prenait son cheval. Peu lui importait, il marchait dans son rêve. Et en même temps, aux deux côtés de la route, marchaient toutes sortes de visions. C'étaient des femmes qui toutes avaient un voile, c'est vrai, mais dont les voiles étaient mis si négligemment qu'il n'y avait pas un de ces voiles qui ne laissait voir une chose qu'il eût dû cacher. Tout à coup, Iskander arrêta son cheval. Il lui semblait passer de la vision à la réalité. Au bord de la fontaine était cachée une jeune fille de 15 à 16 ans, belle comme il ne s'était jamais représenté qu'une femme pût être belle. Elle rafraîchissait dans l'eau pure son beau visage que le soleil d'avril avait coloré comme une rose, puis elle se regardait dans le miroir mouvant, se souriait, et prenait tant de plaisir à se voir sourire qu'elle ne voyait rien autre chose, n'écoutant et n'entendant que les oiseaux qui chantaient au-dessus de sa tête et qui semblaient lui dire « Mire-toi dans la fontaine, belle enfant. Jamais fleur aussi fraîche que toi ne s'y est encore mirée. Jamais fleur aussi fraîche que toi ne s'y mirera après toi. » Il lui disait sans doute cela en vers, mais je suis obligé de le dire en prose, ne connaissant pas les règles de la poésie dans la langue des oiseaux. Et ils avaient raison, les flatteurs emplumés. Il était difficile de voir fleur plus fraîche, plus pure, plus belle que celle qui semblait avoir poussé sur le bord du bassin où elle se mirait. Mais c'était une de ces fleurs, comme Granville savait si bien les faire, avec des cheveux noirs, des yeux comme des étoiles, des dents comme des perles, des joues comme des pêches. Le tout, enveloppé non pas d'un de ces voiles épais et mal appris qui cachent ce qu'il couvre, mais d'un tissu si fin, si soyeux, si transparent qu'il semblait tramé avec ces fils que la Vierge laisse quand vient l'automne échapper de son fuseau. Puis, si l'œil imprudent descendait du visage en ligne droite, c'était bien autre chose. Après un coup qui semblait avoir servi de modèle à la tour d'ivoire de l'écriture venait... Sans doute ce qui venait après et que cachait cependant à moitié une chemise de mauve blanche glacée d'azur et une arcabouque de satin cerise était bien beau, puisque le pauvre Iskander Beg ne put retenir un cri d'admiration. À peine ce cri lui eut-il échappé, qu'Iskander eût voulu être né muet. Il venait de se chasser lui-même du paradis. La jeune fille avait entendu ce cri. Elle se retourna, poussa un cri à son tour. Sur son voile transparent, elle jeta un voile épais et se sauva, ou plutôt s'envola en laissant échapper deux fois le nom d'Iskander Beg. Lui, muet trop tard, immobile quand peut-être il eût dû courir, les bras tendus en avant comme pour arrêter cette réalité qui, en fuyant, redevenait vision, demeura sans souffle, l'œil fixe pareil à Apollon voyant fuir Daphné. Mais Apollon s'élança bientôt sur les pas de la belle nymphe, tandis qu'Iskander Beg ne bougea point tant qu'il put entrevoir, grand comme la main, du voile blanc à travers les buissons. Et quand il l'eut perdu de vue, il fut bien autrement agité, car il lui semblait alors que la vie, à un instant suspendue, rentrait à flot en lui et envahissait bruyamment et violemment son cœur. « Allah ! » murmura-t-il. « Que va-t-on dire d'elle et de moi si on nous a vus ? Qu'elle est belle ! Elle va être grondée par ses parents ! Quels beaux yeux noirs ! On croira que c'est un rendez-vous que nous nous sommes donnés ! Quelles lèvres ! Elle sait mon nom ! » Deux fois en se sauvant, elle a dit « Iskander ! Iskander !» Et il retomba dans sa rêverie, si l'on peut appeler rêverie, un état où le sang bout, où l'on entend les harpes jouer à ses oreilles, et où l'on voit en plein jour toutes les étoiles du ciel. Bien certainement, la nuit eut surpris Iskander sur les bords du bassin dans les eaux duquel il semblait avoir laissé tomber son cœur. Si le cheval, sentant sa bride, un instant roidi, se relâchait doucement, il dut continuer son chemin sans prendre la vie de son cavalier. Iskander entra chez lui amoureux fou. Non, regrettant bien de n'avoir pas trouvé dans ce chapitre le temps ni la place de dire pourquoi Iskander en voulait à Mir Hadji Festali, mais bien certainement, nous promettons à nos lecteurs de le leur dire dans le chapitre suivant.